10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Mickaël Darmon.
Nous voilà une semaine après les élections régionales. Elles font apparaître une nouvelle photographie politique du pays avec un retour d'un monde qui avait été pourtant décrété disparu, ce clivage entre la droite et la gauche. Et ce week-end, on le voit, les partis politiques, les futurs candidats réunissent leurs troupes pour parler de l'élection présidentielle. C'est le cas du Rassemblement national, c'est le cas des Verts et des Jeunes avec Macron. Si, il y en a. Donc, comment reprendre les réformes sans crisper à nouveau le pays de ce qui nous revient dans les ministères. On sent qu'il y a une difficulté à envisager l'avenir, la haute fonction publique. On regarde un petit peu ailleurs. On se dit qu'un peu l'école est finie. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez l'énergie encore de transformer le pays alors qu'il reste que 10 mois avant l'élection présidentielle, dont il serait d'ailleurs bien imprudent d'essayer de deviner l'issue, tant les Français, on le sait, aiment brouiller les sondages et les adages. Alors, pour ce grand rendez-vous, vous serez interrogé par Cécile Cornudet des Échos et Johan Usaï de CNews, à qui je donne la parole.
Bonjour Emmanuel Wargon. Bonjour. On va commencer par la crise sanitaire qui se poursuit, puisque Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin du gouvernement, dit ce matin dans le journal du dimanche qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants maintenant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et surtout, est-ce qu'on a encore le temps d'attendre pour prendre cette décision?
Nous savons que la vaccination, c'est la seule et la meilleure solution pour lutter contre le variant. Nous avons d'ailleurs de bons chiffres de vaccination, puisque vous vous souvenez, il y a 3 mois, personne ne croyait qu'on atteindrait 30 millions de doses. Maintenant, nous sommes à 35 millions de personnes qui ont eu au moins une vaccination. La question pour des soignants, elle se pose, et vous avez raison, elle se pose maintenant. Cette vaccination des soignants, elle est encore insuffisante. On est autour de 60%. Dans les EHPAD, on est même en dessous. C'est notre responsabilité de ne pas laisser la situation
telle qu'elle.
Vous rejoignez
l'appel de M. Fischer ?
Donc moi, je rejoins la position collective qui est de dire maintenant, il faut vraiment que nous vaccinions les soignants et ça passera probablement par une vaccination obligatoire. En tout cas, le débat doit avoir lieu. Il a été lancé par le Premier ministre qui a écrit à tous les groupes parlementaires. Il a été lancé par le ministre de la Santé. Il faudra un texte de toute façon. Donc ça nécessite une loi. Mais maintenant, nous devons arriver à cette étape-là.
Donc avant la fin de la session parlementaire, hein, avant la fin du mois de juillet.
Le calendrier sera fixé par le Premier ministre et par le ministre de la Santé. Donc c'est évidemment à eux de voir à quelle vitesse ça peut aller. Il faut aussi expliquer. L'objectif, c'est de convaincre les soignants d'aller se faire vacciner.
Mais l'obligation, les soignants, c'est plutôt des sanctions.
On n'explique plus.
Mais oui. Notre objectif depuis le début a été de convaincre les soignants.
Et, ça
et même avec
marché.
Une obligation... il faudra leur expliquer pourquoi on en vient à l'obligation, le sens qu'elle a pour eux-mêmes, pour leur famille et pour les patients qu'ils traitent. Donc de toute façon, dans ce débat, même avec un débat sur l'obligation, il faudra convaincre.
Est-ce qu'il faut élargir? On entend également une réflexion sur élargir également l'obligation de vaccination pour d'autres populations dites à risque, fragiles ou exposées. Est-ce que pour vous, il faut élargir au-delà des personnels soignants?
Je crois que pour l'instant, la question, c'est vraiment les soignants. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne face aux malades, face aux personnes fragiles. Nous avons encore de la marge pour le reste. La vaccination progresse. Alain Fischer disait qu'on a encore 200 000 primo-vaccinations. Donc, les nouvelles personnes qui rentrent dans le processus de vaccination chaque jour. Et donc, si nous sommes collectivement responsables, la question de l'incitation, de la campagne de vaccination suffit, je pense, pour le reste de la population.
Olivier Véran et Jean-François Delfraissy parlent maintenant de 4e vague possible. Il y a des pays qui sont en train de refermer, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Australie. Est-ce que ça nous pend au nez à nous aussi?
Bon, on n'a pas totalement gagné encore la bataille contre le Covid. Et nous avons un pays qui redémarre, une économie qui redémarre, une vie normale et sociale qui reprend.
Trop?
Et un risque, non pas trop, c'est normal, c'est légitime, on en a besoin. Et un risque d'avoir à reprendre des mesures de fermeture à cause de ce variant Delta si la vaccination ne progresse pas assez vite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « ça y est, c'est bon, c'est réglé ». Tous les Français qui ont eu une première dose doivent vraiment avoir accès à leur deuxième dose et on va ouvrir la vaccination sur les lieux de vacances. Ceux qui n'ont pas encore démarré la vaccination, ils en ont besoin pour eux-mêmes et pour nous.
Un
c'est une question collective.
Un risque, on a le sentiment que c'est plutôt maintenant une certitude quand on entend les avertissements à peine voilés du ministre de la Santé et d'autres qui disent c'est là, ça y est, c'est pas une question... Est-ce que ça va arriver? Mais quand ça va arriver? On est face à une quatrième vague, en fait.
Le variant Delta, donc ce fameux variant qui est plus contagieux, circule. Mais est-ce que sa circulation sera dans des conditions dans lesquelles on peut continuer à vivre comme on vit aujourd'hui? Ou est-ce que cette circulation trop rapide qui mènerait à plus de contamination, de nouveau plus de cas à l'hôpital, mènerait à de nouvelles mesures de restriction? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Et cette réponse, ce n'est pas une question passive. La réponse, elle est dans nos mains à tous. En fait, ce qui est important dans la vaccination, c'est la responsabilité collective. Nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes une communauté. Et cette vaccination, chacun doit la faire pour soi-même, pour se protéger et pour protéger les autres. Si nous sommes collectivement au rendez-vous de cette vaccination, individuellement et collectivement, si la vaccination continue pendant l'été, si on atteint progressivement 60-70% de la population vaccinée, alors, variant Delta ou pas, nous pourrons, j'espère, Emmanuel, continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui.
Est-ce que pour vous, il serait politiquement possible de reprendre des mesures de restriction? Politiquement, c'est faisable à la rentrée si jamais la situation dérape?
Mais politiquement, ce n'est pas le bon adverbe, c'est sanitairement le bon adverbe.
Politiquement, ça compte aussi, vous le savez.
On reprendra.
Est-ce que c'est faisable? Acceptable pour les Français?
Personne n'en est au stade de reprendre ou d'instruire des nouvelles mesures de restriction. Mais vous vous souvenez, l'été dernier, on en était dans une situation finalement relativement comparable. On pensait que nous étions sortis de la vague de circulation du virus, nous avions déconfiné, et les mêmes questions se posaient. Est-ce qu'à la rentrée, vous pensez qu'il pourrait y avoir un reconfinement? Et tout le monde disait, on espère bien que non. Et finalement, ce reconfinement à la rentrée, il a eu lieu l'année dernière. Donc personne ne peut dire que face à une situation sanitaire qui redeviendrait difficile, il ne serait pas nécessaire de reprendre des mesures sanitaires.
Alors, Emmanuel Vargon,
le politique s'adaptera aux sanitaires parce que notre responsabilité à la tête du pays, c'est de protéger la santé des Français.
On entend bien vos craintes, hein, on entend bien cette prudence et on a même le sentiment et on entend bien que ça perturbe déjà cette situation, la réflexion gouvernementale sur la suite des réformes, comment terminer le quinquennat. Par exemple, sur la réforme des retraites, on voit bien qu'il y a une grande difficulté à prendre une décision. Vous, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut faire cette réforme des retraites ou pas?
Ma position d'abord sur les réformes, et j'arrive aux retraites dans 30 secondes.
Oui, vous allez dire qu'elles sont importantes, qu'il faut transformer le pays.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un pays qui est confronté à des transformations externes très fortes, des adaptations du monde très fortes. On parlera, je pense, plus tard du changement climatique, parce que c'est évidemment l'un des enjeux les plus importants. On a aussi des enjeux de solidarité et d'inégalité entre générations. Et la question des retraites est une question qui est toujours ouverte, puisque comme la réforme n'a pas eu lieu, l'équilibre des régimes de retraite n'est pas assuré. Donc oui, nous aurons besoin de réformer les retraites, à la fois pour rééquilibrer entre les générations.
La question c'est quand?
Mais la question c'est quand? C'est une discussion qui sera collective. Vous savez que le président de la République reçoit les partenaires sociaux là, dans les jours qui viennent, la semaine prochaine.
Justement, Cécile Cornudet a une information là-dessus.
Cette discussion, elle va démarrer entre le président de la République et les partenaires sociaux dans quelques jours.
Ils ont déjà dit ce qu'ils pensaient, les partenaires sociaux, sur la réforme des retraites. Il n'y en a pas un qui dit qu'il faut le faire, y compris le patronat.
Alors,
la décision, en réalité, vous dites, elle est collective, elle n'est plus collective. Tous les poids lourds de la majorité se sont exprimés, tous les partenaires sociaux. C'est Emmanuel Macron, en réalité, qui décide et personne ne sait, on a l'impression.
La réforme des retraites, on la fera sous réserve que nous ayons une forme de consensus dans la société française.
Donc,
consensus sur ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire en matière d'équité entre les générations. Parce que pour l'instant, la génération de nos enfants, si nous n'y prenons pas garde, va se retrouver avec la dette des retraites, la dette climatique et la dette publique tout court. Et nous ne pouvons pas faire ça. Et équité entre les différents cotisants, parce qu'un des points de départ de cette réforme des retraites, c'était aussi plus d'universalité entre les différents types de cotisants, les régimes spéciaux et les autres.
Pour faire une
réforme
des
retraites. Non, mais je voudrais juste répondre au fond à la question. Pour faire une réforme des retraites, il faut une forme de consensus. Et il faut être d'accord sur l'urgence. Ça va être rediscuté entre le président de la République, les partenaires sociaux et les différents partis politiques.
Donc il y a bien un sommet social la semaine
prochaine,
finalement.
Il y aura une discussion, dans les jours qui viennent entre les partenaires sociaux et le président de la République. Après, bien sûr, vous avez raison, c'est le président qui tranche. Le président de la République, c'est lui qui a la légitimité démocratique suprême.
Mais ça veut dire que vous considérez, vous dites ce matin, selon vous, les conditions ne sont pas réunies. C'est ce que vous dites clairement.
Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut...
Vous dites qu'il faut un consensus. Ce consensus n'existe pas aujourd'hui.
Ce consensus, je crois qu'il existe au fond sur le constat et sur le besoin. Après, ça dépend effectivement de la situation sanitaire. Si on en est toujours à se battre contre le variant à la rentrée ou si on est passé à autre chose, ça dépend de ce qui sera mis sur la table, ça dépend de la manière dont on le présente. Mais en tout cas, pour moi, cette réforme, il faut la faire. Il faut la faire en responsabilité.
Oui, mais
on ne peut pas laisser cette situation. On l'a laissée ouverte trop longtemps. Les majorités précédentes ne l'ont pas faite. Et cette réforme, il faudra la faire.
Il faut la faire. Tout le monde est à peu près d'accord. La question du moment, c'est quand ? Est-ce que c'est avant la campagne présidentielle ou après la campagne présidentielle ? Un autre sujet, cette fois-ci, qui vous concerne et qui montre également la difficulté à réfléchir en ce moment. Il y a donc un volet logement qui va être étudié sur les logements sociaux dans la loi décentralisation qui arrive. Ça irrite aussi les maires. Est-ce que vous y tenez à ce point au risque de provoquer une irritation et des tensions à la rentrée?
Alors oui, j'y tiens. Mais alors j'y tiens vraiment beaucoup. J'y tiens parce que moi, je me suis engagée en politique pour comprendre les problèmes des Français, des gens, et contribuer à essayer de les régler. Et parfois, c'est difficile. Et il n'y a pas un déplacement que je fais où je ne suis pas interpellée par des gens, où je ne reçois pas du courrier. Des gens qui me disent « on n'arrive pas à se loger ». Je vis avec ma famille dans un logement trop petit. Je vis avec ma famille dans un logement dégradé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors moi, je n'attribue pas les logements un par un, je ne les produis pas un par un. Mais en revanche, ma responsabilité, c'est de développer le logement et le logement abordable en France. La loi SRU, qui est la loi qui impose à toutes les communes dans lesquelles il y a une tension, donc une demande de logement, d'avoir 20 ou 25% de logements sociaux, elle expire en 2025. Ça n'est pas possible de laisser cette loi expirer. On a besoin de garder cette obligation. On a besoin de logements sociaux ou de logements abordables partout en France. Donc j'ai convaincu le président de la République et le Premier ministre de porter ce sujet dans un projet de loi, qui est le projet de loi sur la décentralisation avec Jacqueline Gourault. Ce projet de loi arrive au Sénat la semaine prochaine et il y a matière, il y a moyen de se mettre d'accord avec les maires. Parce que des maires, j'en ai aussi vu beaucoup. J'ai reçu des délégations de maires d'Île-de-France, d'autres régions françaises. Et il y a moyen de contractualiser avec eux. Donc il y a moyen de dépasser la contradiction. Il faut le faire. Certains maires ne veulent pas. Moi, je vois le chemin et je me battrai pour y arriver.
On se retrouve donc avec Emmanuel Bargon pour continuer à évoquer l'après-régional.
Le Grand Rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Et on retrouve Emmanuel Bargon, ministre donc délégué au logement. On l'a dit, tous les partis politiques se réunissent pour tirer les leçons des régionales et le Rassemblement national, lui, était en congrès. On écoute, on regarde Thierry Mariani.
On est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire que les régionales sont finies. Bien sûr qu'on est déçus, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais maintenant, ce qui compte, c'est le combat des présidentielles. Et ce congrès est surtout tourné vers comment faire en sorte d'éviter à la France un second mandat d'Emmanuel Macron.
C'est quoi votre analyse du scrutin régional pour le Rassemblement national ? On voit qu'ils ont reflué dans toutes les régions. Thierry Mariani dit là que le congrès en fait laisse émerger des doutes sur la stratégie de Marine Le Pen. Est-ce que pour autant, c'est toujours votre principal opposant pour la présidentielle de l'année prochaine ?
C'est quand même une bonne nouvelle de ce scrutin d'avoir vu le Rassemblement national refluer partout et perdre presque une dizaine de points.
Néanmoins, les présidents sortants de région qui ont obtenu ce résultat.
Pour moi, la lecture de ces élections, c'est reconduction des sortants. La totalité des sortants ont été reconduits en métropole avec une exception qui est à La Réunion. Donc c'est une reconduction des sortants, c'est aussi des électeurs qui n'ont pas compris, parce que les enjeux n'étaient pas clairs, les enjeux de ces élections départementales et régionales. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est où est la colère, où est la contestation ? Parce que la contestation et la colère s'exprimaient jusqu'à présent dans un vote des extrêmes contre les partis de gouvernement, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise. Et maintenant, pour moi, cette colère ou cette contestation, elle est quelque part chez les abstentionnistes.
Avec un risque, du coup, de gilets jaunes sur...
Avec un risque que de plus en plus de Français pensent que les politiques ne les comprennent pas et ne sont pas en capacité de régler leurs problèmes. Donc oui, un risque de gilets jaunes. Moi, j'en ai rencontré beaucoup des gilets jaunes dans cette période-là. J'ai rencontré beaucoup de Français. Et ils attendent qu'on les comprenne, qu'on les considère, qu'on s'intéresse à leurs problèmes du quotidien. C'est pour ça que les questions très concrètes sont importantes.
C'est parce que le grand débat post-gilets jaunes devait poser ce fameux acte 2 du quinquennat. On a tout compris, ça y est, ça ne reviendra plus. Et regardez, vous nous dites un an et demi plus tard, eh bien, c'est toujours là le problème.
Ce que je vous dis, c'est que le principal enjeu pour nous, pour la classe politique, pour les gens qui se sont engagés en politique, c'est d'être sûr qu'on répond aux vrais problèmes des Français. Et dans cette élection, les Français n'ont pas compris, n'ont pas pensé qu'une élection régionale ou départementale, parce que personne ne comprend ce que font les régions et ce que font les départements, parce que finalement ça a été très orienté sur la gestion de crise et que la gestion de crise a été perçue correctement, personne n'a compris ce que la politique pouvait apporter.
Ce que vous nous décrivez là ce matin, c'est un échec important pour le président de la République qui, quand il a été élu, voulait réinventer, réenchanter même la politique. Ça, c'est un échec très très important, encore une fois, du président.
C'est pas un échec du président parce que c'est une élection locale. C'est un échec d'ancrage local. Moi, je le perçois comme ça. Vous savez, j'ai été candidate à cette élection régionale. J'ai été élue conseillère régionale dans une liste dans le Val-de-Marne que j'ai tirée dans le Val-de-Marne. Simplement, ce que j'ai compris, ce que j'ai perçu, c'est que les électeurs votent pour des gens, des candidats qu'ils connaissent, qui sont proches, qu'ils ont rencontrés plusieurs fois, qui s'investissent à leur côté, qui sont dans la proximité, dans la défense de leur sujet. Et donc, ils ont voté pour des candidats installés qu'ils connaissaient déjà. Nous implantons, ça va être long, ça va prendre du temps, il faut le faire avec humilité, il faut être sur les marchés, il faut tenir des permanences, il faut rencontrer les Français, les électeurs,
là, justement...
il faut leur montrer concrètement qu'on va pouvoir les aider. Ils ont finalement voté pour les sortants, parce que ce sont les
ce
sortants
qu'ils
connaissaient.
Ce que vous n'avez pas réussi à faire, donc, visiblement.
Non, et ça va prendre du temps. Et finalement, les partis mettent du temps
Cécile
à s'installer.
Cornudet.
Vous nous dites aussi que vous avez fait les marchés là, pendant votre campagne, que vous sentez encore cette colère des Français, qui ne s'est pas exprimé via le Front National, mais qui reste un bouillonnement dans le pays qui ne trouve pas canalisation. C'est ça que
je sens une partie de colère et une partie de résignation sur finalement, tous autant que vous êtes, vous n'arriverez pas à nous aider vraiment à mieux vivre. Et moi, c'est vraiment pour ça que je me suis engagée. C'est pour aider les Français, les gens, à vivre mieux, pour essayer de régler leurs problèmes. Évidemment, les problèmes sont compliqués. On y reviendra sur le logement. C'est compliqué. On a des sujets sur le logement. On a des questions de grande pauvreté. On a la question de l'insertion professionnelle et l'insertion tout court des jeunes. On a l'urgence climatique qui nous force à bouger. C'est à nous de réussir à convaincre concrètement les Français qu'on peut régler leurs problèmes.
Par exemple, pour récupérer les classes populaires, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?
C'est pour ça que... dans mes sujets, je travaille de façon extrêmement concrète. Je vais vous donner un exemple sur la rénovation énergétique des bâtiments parce que ça fait 2 ans que tous les jours, je me bats pour que ça marche.
Absolument.
On est parti d'un système dans lequel on rénovait peu en France des maisons ou des appartements et le gros des aides d'État était capté par les ménages les plus riches, parce que c'était un crédit d'impôt et ceux qui savent utiliser des crédits d'impôt sur l'impôt sur le revenu sont plutôt les ménages les plus riches. Et on rénovait en gros 40 000 logements chaque année chez les ménages les plus modestes. On a tout refait. Une nouvelle aide qui s'appelle MaPrimeRénov, un nouveau diagnostic de performance énergétique, enfin beaucoup de mesures très techniques. Le résultat de ces mesures très techniques, c'est qu'on va avoir 800 000 personnes qui utilisent MaPrimeRénov cette année. Et moi, je vous le disais, je me déplace beaucoup. La dernière fois, j'étais dans les Pyrénées-Orientales, voir une dame, un couple de retraités, pour voir comment ça s'était passé, parce que je vais chez les gens, en fait. Parce que finalement, pour comprendre quand ça marche et quand ça ne marche pas, il n'y a encore pas plus simple que d'aller chez les gens. Et la dame me dit... je suis très heureuse de vous accueillir, mais il faut que je vous pose une question. Est-ce que MaPrimeRénov, c'est vous ? Et elle me le dit avec un air un peu sévère. Donc je lui réponds un peu inquiète. Oui, c'est moi qui l'ai créé. Elle m'a dit, ah merci vraiment, ça a changé ma vie, j'ai
c'est
pu rénover
bien.
Ma maison.
Parfait. Donc, mais c'est, vous dites aussi qu'il y a 65%
mais ce que je vous dis, c'est que c'est à la rencontre
que,
des
fait,
gens qu'il
ça
faut
ne
aller.
Sert à rien.
Et bien, nous avons encore... Peut-être aussi parce que finalement, les Français ne se passionnent pas pour les élections intermédiaires et se passionnent pour l'élection cardinale, qui est l'élection à la présidentielle. Mais ça répond à la question, est-ce qu'il faut continuer à adapter le pays au changement ? Est-ce qu'il faut continuer ? Réformer, moi, c'est un mot que j'aime pas parce que ça donne l'impression qu'on veut changer pour changer. Le sujet, ce n'est pas de changer pour changer. Le sujet, c'est d'arriver à régler les problèmes des gens. Sur les jeunes, par exemple, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faudra s'y attaquer.
On va en parler, absolument. Johan Ouzaï.
Alors, Emmanuel Wargon, des militants d'attaque ont repeint la façade de la Samaritaine pour dénoncer l'enrichissement des milliardaires durant la crise sanitaire. D'abord, est-ce que vous condamnez? Et puis, au-delà de la méthode, est-ce qu'ils mettent, selon vous, le doigt sur un problème qui est réel ou est-ce qu'ils se trompent de combat?
Bien sûr que je condamne, d'autant plus que la Samaritaine, ça a été des années de travaux pour rouvrir un magasin. C'est à la fois
la semaine dernière.
Un patrimoine important, parce que c'est un bâtiment qui a été complètement refait et c'est un joyau. Et puis ce sont des emplois. C'est l'attractivité de Paris, c'est aussi le tourisme, ce sont des emplois, des salariés de la Samaritaine qui n'avaient plus d'emploi pendant toute la période de fermeture et qui sont de nouveau au travail. Donc oui, bien sûr, on a besoin d'un respect minimal et je condamne cet acte.
Et vous souhaitez qu'il y ait des condamnations de la justice précisément pour ceux qui se sont...
J'en sais rien, j'imagine que des plaintes vont être déposées, ouais. la justice
Mais
suivra son cours.
Vous souhaitez des poursuites.
En tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté possible, je condamne totalement cet acte. Après, sur les multinationales, Bruno Le Maire mène un combat fort qu'il est en train de gagner sur la taxation des multinationales à l'échelle de l'OCDE et sur un impôt minimal sociétés. Donc
c'est beaucoup
plus fort et beaucoup plus important puisque ça permettra d'avoir une équité fiscale meilleure pour taxer les grosses entreprises et pour les taxer où qu'elles localisent leur siège social, où qu'elles fassent leur chiffre d'affaires, où qu'elles rapatrient leurs profits. Donc, en fait, paradoxalement, aucun gouvernement n'a autant agi sur ce sujet que celui-là. Notre gouvernement, c'est aussi un gouvernement avec un vrai bilan social. Donc voilà, je trouve que cette attaque est un peu dérisoire.
Parce qu'en même temps, ça vous permet effectivement, d'après ce que j'entends là, de dire, au fond, c'est vrai, il existe un pôle social dans ce gouvernement qui est assez peu... mis en avant, représenté, porté comme étant le grand sujet du pouvoir actuel.
Mais ce président, ce gouvernement...
On parle beaucoup plus de la lutte contre le séparatisme que, faire reculer les inégalités.
Ce président, ce gouvernement, nous avons un meilleur bilan social que le président Hollande, et de très loin. C'est ce gouvernement qui a fait le dédoublement des classes, les petits déjeuners gratuits à l'école, l'augmentation de la prime d'activité. On a rajouté 100 euros par mois de pouvoir d'achat à tous les ménages qui touchent la prime d'activité après le grand débat, le Ségur de la santé. Et effectivement, parce que le débat est peut-être polarisé sur les petites phrases, finalement, ce bilan, on l'entend moins. Mais il existe, il est là. Et quand on parle de concret pour les Français... Ça
et
se voit, c'est présent.
Et ceux qui ont fait effectivement reculer le parti qui a en général véhicule les mécontentements, c'est-à-dire le RN, eh bien, ce sont Pécresse, Delga, Bertrand, Wauquiez, c'est l'ancien monde.
Ce sont les sortants. Ce sont les sortants à une élection locale dans laquelle les Français ont dit qu'ils avaient confiance dans ce qu'avaient fait les sortants, les présidents de région en place. Mais si le RN a reculé, c'est peut-être aussi parce que toutes ces mesures de protection que nous avons portées, que ce gouvernement a portées, de protection sociale, d'attention aux plus défavorisés, on n'a pas parlé d'hébergement d'urgence non plus, pour la première fois, nous n'avons pas fermé les places d'hébergement d'urgence, 200 000 places d'hébergement d'urgence. Donc si le RN a reculé, c'est peut-être aussi parce que cette protection est plus forte qu'avant.
On va voir ce que vous avez à dire effectivement sur les questions climatiques. À tout de suite.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Et Emmanuel Wargon, que l'on retrouve pour cette troisième partie du grand rendez-vous. On l'a dit, les candidats écologistes à la primaire ont réuni leurs troupes. Éric Piolle à Pantin. Aujourd'hui, ce sera Yannick Jadot à Colombes. On écoute, on regarde le maire de Grenoble. À tout de suite.
Jusqu'à présent, les écologistes choisissaient un candidat pour qu'il soit leur porte-voix. Là, pour la première fois, nous allons choisir une candidature pour qu'elle rentre à l'Élysée. Donc, c'est deux exercices différents, c'est une nouvelle page.
Alors, Éric Piolle, candidat à la primaire, Yannick Jadot aussi, on vient de le dire. Donc, on a compris cette semaine qu'il n'y aurait pas donc, de candidat unique à gauche. C'est une bonne nouvelle pour vous ?
En tout cas, l'élection est à peine passée, qu'on a déjà une multiplication de candidatures dans tous les sens. Donc, on verra bien. Après... Moi, je ne sais plus très bien qui incarne la gauche aujourd'hui, parce que je l'ai vu dans la campagne des régionales, en Île-de-France. La gauche, c'était Audrey Pulvar, mais c'est une gauche qui n'est plus une gauche universaliste. Et c'est une gauche qui s'est alliée non seulement à Europe Écologie Les Verts, mais à la France Insoumise, qui pour moi est en dehors des valeurs de la République. Donc je ne sais pas ce que donnera l'émergence d'un ou plusieurs candidats à gauche, mais
donc
les électeurs de
députés,
gauche, les électeurs sociaux-démocrates, je ne vois pas en qui ils vont se reconnaître. Moi, je dis que la France insoumise est en dehors des valeurs de la République aujourd'hui.
Alors, il faut dissoudre la France insoumise ?
Non, c'est un parti, il a le droit de défendre ce qu'il veut, mais en tout cas, je pense que les valeurs portées par la France insoumise ne sont plus des valeurs républicaines et qu'une gauche qui finit, une gauche dite modérée, qui finit par s'allier avec la France insoumise,
Anne Hidalgo, mais
elle ne ressemble plus à rien.
La France insoumise,
oui,
et enfin, la partie
Hidalgo, c'est quand même elle qui a soutenu, imposé Audrey Pulvar dans les élections régionales en Île-de-France. C'était sa candidate. Après, elle s'en est progressivement séparée au fur et à mesure des maladresses de la campagne. Et Audrey Pulvar, qui emportait la gauche PS, a fait une alliance avec la France insoumise et Clémentine Autain. Insoumise, Clémentine Autain, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, c'est ceux qui appelaient à marcher sur l'Élysée dans la période de crise des Gilets jaunes. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même celui qui disait qu'il y aurait des attentats fomentés par je ne sais pas qui juste avant les élections. Donc on est en dehors
donc vous dites
de
que
la gauche
France
républicaine.
Est un parti qui est dangereux.
Il s'est expliqué ses propos
et que le PS
ne
s'est toujours pas positionné clairement face à lui.
Est-ce que vous mettez par exemple sur un pied d'égalité le Rassemblement national et la France insoumise ? Parce que quand on vous entend ce matin, vous me dites effectivement que c'est un parti extrêmement dangereux. Vous considérez que le Rassemblement national est dangereux également. Est-ce que pour vous, ces deux partis-là se valent ?
Je ne mets pas exactement sur un pied d'égalité parce que pour moi, le Rassemblement national, c'est un parti avec des origines d'extrême droite, fasciste, avec des tentations antisémites qu'on ne retrouve pas du côté de la France insoumise.
Et pourtant,
mais
c'est
néanmoins,
la France insoumise
je
qui est
considère
de la République.
Que
et le Rassemblement
ni l'un
national,
ni l'autre n'incarne les valeurs de la République.
Yann Uzaï.
Alors, on parle d'écologie maintenant. Vous nous dites effectivement que le gouvernement est un gouvernement qui a beaucoup fait pour l'écologie. C'est ce qu'on entend au niveau de l'exécutif. Et pourtant, vous n'arrivez pas à convaincre les électeurs de cette fibre écologiste. Le Conseil d'État, par exemple, vient de donner 9 mois au gouvernement pour prendre des mesures dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous allez faire en sorte d'accéder à cette demande du Conseil d'État ? Quelles mesures vous allez prendre ?
Je pense que le gouvernement, que je porte une vision de l'écologie qui n'est pas la même que celle qui est proposée par Europe Écologie Les Verts. Parce que Europe Écologie Les Verts nous dit « Yaka Faucon, il faut régler la question climatique ». Nous, nous sommes en responsabilité. Et notre rôle, c'est d'avancer le plus vite possible tant que c'est possible.
Mais là, c'est pas Europe Écologie Les Verts, c'est le Conseil d'État.
Oui,
la plus haute juridiction du pays.
C'est
très intéressant ce que dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit « Vous avez pris des mesures ». Et d'ailleurs, elle commence à porter des résultats. C'est aussi ce que dit le Haut Conseil pour le climat. Pour la première fois en 2019, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé d'un peu moins de 2%, c'est-à-dire l'objectif que nous nous étions donné. Et il dit « Ce que vous avez actuellement en vigueur ne suffit pas ». C'est ce que dit le Conseil d'État. Et ça tombe bien puisque la loi climat va bientôt être adoptée. Le Conseil d'État nous dit il faut que cette loi climat soit votée, il faut que les décrets d'application, donc ce qui la rend concrète, c'est toujours pareil, moi c'est mon obsession, c'est le concret. Ce qui la rend concrète, ça doit sortir vite. Et si vous maintenez ce que vous avez fait, plus la loi climat, plus ces décrets d'application, alors vous serez en gros sur la trajectoire. Donc ça n'est pas une sanction, c'est plutôt un encouragement à finir ce que nous faisons. Mais il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes fondamentalement pas d'accord avec ceux qui sont dans l'incantation. À quelle vitesse on peut aller ? Est-ce qu'il faut, je reprends le sujet de rénovation parce que c'est ceux que je connais le mieux, les sujets du bâtiment. Est-ce qu'il faut obliger tous les propriétaires à rénover ? Et si oui, comment on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour obliger quelqu'un qui est juste chez lui ou chez elle, dans la France rurale, en disant bah, « désormais, vous allez avoir une amende si vous ne faites pas de travaux de rénovation ». Ça n'a aucun sens. Donc moi, je ne suis pas pour une obligation générale. Je suis pour des incitations efficaces. On va mettre en place un accompagnement complémentaire à ce qu'on fait déjà pour aller encore plus vite
avoir
des rénovations encore plus performantes.
Donc, c'est facile
de dire « il faut ». Nous, nous sommes en prise avec le réel. Et en prise avec le réel, ça veut dire trouver le bon chemin pour que ce soit possible et que ce soit accepté.
Et quand le Conseil d'État dit « il faut », quand il joue ce rôle d'aiguillon, comme il l'a fait d'ailleurs récemment sur l'assurance chômage, où il n'a pas statué sur le fond, mais sur des questions d'opportunité, est-ce qu'il est dans son rôle ? Quel rôle il joue pour vous ? Est-ce qu'il est devenu un acteur politique, le Conseil d'État ?
Alors, sur le climat, je pense qu'il est dans son rôle. Et Et ça nous apprendra collectivement à faire attention quand on vote des textes incantatoires. Parce que moi, je suis responsable d'appliquer des lois qui ont été votées dans la mandature précédente et qui disent, en 2025, il n'y aura plus de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Ah oui, mais par et quelle opération, par quel miracle? Ça a été voté. Et du coup, maintenant, on dit, bah, débrouillez-vous. Donc, le Conseil d'État nous dit, vous votez des lois, ces lois vous engagent. À partir du moment où vous avez pris des engagements, où ils sont devenus juridiquement opposables, vous devez les tenir. Je pense que le Conseil d'État est dans son
rôle. Et sur l'assurance chômage.
Sur l'assurance chômage, là, le Conseil d'État a pris une position sur la conjoncture économique et la situation du pays.
Vous partagez.
Et là, c'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment le rôle du Conseil d'État que d'avoir une appréciation économique sur les conditions d'entrée en vigueur.
La gauche a applaudi dans son ensemble, parce que vous vous revendiquez de gauche.
Barbara
la gauche...
Pompili, votre collègue du gouvernement, a trouvé ça une bonne chose.
Et la gauche dit...
Moi j'assume cette réforme.
Ça lui a valu les foudres, d'ailleurs, de la ministre du Travail.
J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'emploi. J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'emploi des jeunes, avec la création de la garantie jeune que j'ai créée il y a quelques années, et même sur les questions d'accès à l'emploi et d'incitation à l'emploi, parce que quand j'ai créé le RSA,
avec Martin Hirsch,
nous avons créé aussi le RSA activité qui est devenu la prime d'activité. Et notre point de départ, c'était il faut toujours qu'on gagne plus en travaillant qu'en bénéficiant de la solidarité nationale. Or, la réforme de l'assurance chômage, elle sert à répondre à cette question-là. Est-ce qu'on gagne plus en travaillant que quand on est à l'assurance chômage? Et puis aussi, elle porte un bonus-malus sur les contrats courts.
Oui, mais cela avait été reporté. Le bonus-malus qui concernait les entreprises avait été reporté en raison de la conjoncture et pas ce qui concerne
les
précaires.
Le bonus-malus, il entre en vigueur au sens où on démarre l'analyse technique qui va permettre dans un an de mettre en place le bonus-malus.
C'est ce que dit le Conseil d'État. Il aligne sur
l'indemnisation. On a besoin de remettre l'indemnisation au carré. D'avoir une indemnisation dans laquelle vous n'avez pas intérêt
à
ne pas travailler plutôt que de travailler. Si vous voulez, après, on entend l'hôtellerie-restauration qui nous dit « impossible de recruter ». Dans le bâtiment, on entend les entreprises du bâtiment qui nous disent « alors que maintenant, on a des bons salaires, que quand vous êtes plombier, quand vous êtes ouvrier de chantier, vous commencez avec un bon salaire et vous progressez,
ils n'arrivent
pas à
recruter. »
Il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, en fait.
Non, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas considérer que d'un côté, c'est satisfaisant d'avoir des secteurs d'activité qui n'arrivent pas à travailler et de l'autre, des règles d'assurance chômage qui enferment de bonne foi les gens dans des situations dans lesquelles leur intérêt est plutôt d'alterner entre activité et inactivité.
L'intervention du Conseil d'État.
Et donc on a besoin d'avoir un système d'assurance chômage qui soit cohérent.
Emmanuel Bargon.
Le Conseil d'État s'est prononcé sur le moment d'entrée en vigueur. Il va falloir peut-être continuer à convaincre le Conseil d'État sur le moment d'entrée en vigueur.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi, confirmer votre fibre sociale. Le Conseil d'État dit attention au contexte. Les Français ont été enfermés, déstabilisés. Attention à la manière dont on relance et dont on reprend les réformes.
Sur le contenu de l'alerte, sur le contexte, je le partage. C'est d'ailleurs ce que je vous disais sur la réforme des retraites. Ça dépend évidemment du contexte. Sur la question de savoir si c'est au Conseil d'État de faire cette alerte, en tout cas, c'est nouveau. Mais au fond, cette réforme, nous en avons besoin.
Alors, plusieurs études viennent d'être publiées et montrent que la réforme des APL a touché principalement les jeunes. Ça, c'est clairement pas une réforme de gauche, c'est pas une réforme sociale, cette réforme des APL.
Le nouveau montant des calculs, des aides pour le logement...
J'ai été nommée ministre du logement début juillet, il y a un an. Et la réforme des APL était sur la table. Et j'ai regardé cette réforme de très très près pour être sûre que j'étais confortable avec cette réforme et que je considérais qu'elle était juste. Et je l'ai portée parce qu'au fond, je considère qu'elle est juste, cette réforme. Cette réforme, elle consiste à dire qu'on ne touche pas le barème des APL. Hein. Clairement, le barème, c'est-à-dire vous gagnez tant, vous avez tant en APL, il n'a pas été modifié du tout.
C'est calculé
maintenant
sur les 12 derniers.
En revanche, on regarde de quelles ressources on parle. Et on parlait avant de ressources d'il y a 2 ans, et maintenant nous calculons les APL sur les dernières ressources connues.
Mais la réalité, c'est que les APL ont baissé de la dernière année. Pour les jeunes.
Alors, les aides ont baissé, on n'a pas encore un bilan consolidé parce que la CNAF n'a pas encore de chiffres consolidés. Mais en gros, on sait que les aides ont baissé pour certains, elles ont augmenté pour d'autres, le bilan est un bilan d'économie, parce que, en fait, comme les ressources progressent, et ben, quand on prend les dernières ressources disponibles, du coup, on verse un petit peu moins d'APL que quand on prend les ressources les plus anciennes. Mais pour les jeunes, nous avons protégé les étudiants. Il n'y a pas d'étudiants qui perdent. Les étudiants, soit les étudiants qui ne travaillent pas, soit les étudiants qui travaillent.
Ce sont surtout les jeunes actifs qui
ont été protégés avec cette réforme. Nous avons protégé les jeunes en contrat d'apprentissage et par extension en contrat de professionnalisation. Après, les jeunes actifs sont des jeunes qui, comme leur nom l'indique, n'avaient pas de revenus, rentrent dans la vie active. Et du coup, en rentrant dans la vie active, ont des ressources, donc leurs revenus augmentent. Alors, les APL étaient devenus une sorte de coup de pouce à l'installation. Si on veut mettre en place un coup de pouce à l'installation pour les jeunes, je pense qu'il faut le faire avec une vraie mesure coup de pouce. On a d'ailleurs une aide d'Action Logement là-dessus. Mais utiliser un décalage dans le temps des APL, pour moi, ça n'est pas la bonne solution. Et il y avait plein d'effets pervers. Vous savez, moi, j'ai été convaincue par cette réforme fin juillet dernier, quand j'ai fait une table ronde avec des agents de la CAF de Paris.
Oui, mais ça va pas être audible.
Parce que c'est peut-être pas audible, mais je suis allée discuter avec les agents de guichet en leur demandant est-ce que cette réforme pour vous, elle est possible.
La difficulté quand même, c'est qu'il y a effectivement une relation que le président de la République entretient avec la jeune génération. On le voit, les McFly et Carlito, les youtubeurs et d'autres démarches de communication politique. Et puis à côté de ça, vous avez une génération qui a été atteinte par le Covid, qui dit on ne s'en sort pas, qui s'aperçoit qu'effectivement, quand il y a les aides au logement et l'APL, c'est symbolique depuis le début du quinquennat, où est la réalité ?
Les jeunes, il faut les aider à l'accès au travail et à l'insertion professionnelle et les aider aussi quand ils n'ont pas de revenus. Alors, travail et insertion professionnelle, c'est ce que nous faisons avec le plan Un jeune, une solution. Avec plus de contrats d'apprentissage, plus d'accès à des formations mieux payées. Nous avons aligné le paiement des indemnités de formation professionnelle, minimum 500 euros à 18 ans et 800 à 900 euros quand les jeunes sont un petit peu plus âgés. Il reste un trou dans la raquette qui sont les jeunes sans aucune ressource. C'est pour eux que j'ai créé la garantie jeune il y a quelques années quand j'étais déléguée à l'emploi et à la formation professionnelle. Cette garantie jeune, je l'ai créée avec la CFDT à l'époque. On s'est battu pour faire rentrer 10 000, 15 000, 20 000 jeunes. Maintenant, on en est à 100 000. Nous avons déjà annoncé le doublement, donc 200 000. Et nous allons, les travaux sont en cours avec Elisabeth Borne, vers ce qu'on appelle une garantie jeune universelle. C'est ça la bonne réponse aux jeunes.
Qu'il n'y ait pas de jeunes qui manquent de revenus. Quand elle sera-t-elle adoptée ?
Ça fait partie des sujets qui seront discutés avec les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent. Les travaux sont en cours. Les annonces seront faites, mais en tout cas, nous y allons. Donc, nous avons besoin d'aider les jeunes, ça c'est sûr. Les jeunes sont ceux qui ont probablement le plus souffert de la crise. Mais une mesure technique qui fait qu'on va chercher des vieilles ressources, des APL pour ça, c'est pas la bonne mesure.
Alors, il y a d'autres jeunes qui s'inquiètent, on va en parler après la pub. Ce sont les jeunes avec Macron. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Et l'on retrouve Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement. Question d'Ilan Uzay.
Alors, les jeunes avec Macron qui se réunissent pour préparer déjà 2022, et ils sont très critiques envers le parti. Richard Ferrand, lui aussi, est assez critique. On voit quand même quelque part que La République En Marche est un peu le maillon faible de la Macronie. Pour vous, c'est ça qu'il faut principalement changer avant la campagne présidentielle ?
Je pense qu'on a besoin de bien définir, mieux définir nos fondamentaux. Et que La République En Marche, c'est le parti à l'intérieur de la majorité qui doit remettre sur la table ce qui nous unit. Après, je suis membre de La République En Marche, je suis aussi membre de l'aile gauche de la majorité qui s'appelle Territoire de Progrès, parce que je pense que nous avons besoin, à l'intérieur de cette grande majorité qui soutient le président de la République, d'exprimer fortement nos valeurs, en particulier
donc,
en matière de lutte contre les inégalités
dans le vaisseau fantôme qui est La République En Marche,
de changement
climatique. Un canot de sauvetage, c'est ça ? Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, au fond, cette structuration de la majorité ? Expliquez-nous. Il y a un parti qui, au fond, que le président de la République ne s'intéresse pas, qui n'arrive pas à s'ancrer. Et vous vous dites, au fond, on continue à représenter la gauche à l'intérieur de cette structuration.
Le président de la République, il porte un projet depuis le début de dépassement et de vision politique sur des grandes priorités qui empruntent, dans certains cas, à des valeurs issues de la droite et dans d'autres à des valeurs plutôt issues de la gauche.
Plus souvent à droite quand même.
C'est aussi la laïcité, c'est la protection des plus faibles. Vous savez, on est, je pense, le seul pays dans lequel le pouvoir d'achat a augmenté en 2020. Le pouvoir d'achat en France a augmenté de 0,4%. Le quoi qu'il en coûte, le chômage, le paiement de l'activité partielle, le soutien à toutes les entreprises, il n'y a pas de pays qui a été plus protecteur.
Il y a aussi 10 millions de pauvres en France, Emmanuel Wargon.
Oui, le taux de pauvreté en France, il est plutôt un peu inférieur au taux de pauvreté des pays comparables. Il a augmenté parce qu'on est en période de crise, mais il a moins augmenté qu'ailleurs. Moi, la lutte contre la pauvreté, j'y ai consacré beaucoup d'années de ma vie avec Martin Hirsch. Avec l'hébergement d'urgence, je continue à y travailler. Donc évidemment que c'est un sujet sur lequel je ne vous dirai pas que tout va bien, mais on y travaille. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que propose le président de la République, c'est un socle commun de valeurs qui, dans certains cas, emprunte à la droite, dans d'autres, emprunte à la gauche, qui sont européennes, qui sont écologiques, mais dans une écologie plus pragmatique. Et ça, ça doit être porté par les différentes composantes politiques
dans le Figaro,
de la majorité présidentielle.
Quand Gérard Darmanin dit dans le Figaro sur une pleine page, la droite républicaine se retrouve chez Macron.
Les valeurs.
Et les valeurs.
Oui,
vous avez,
mais je ne dis pas le contraire.
Vous avez un équilibre, là ?
Je pense que ce que porte le président, ce qu'il incarne, son projet, ce sont des valeurs républicaines qui, dans certains cas, sont traditionnellement issues de la droite et dans d'autres, sont traditionnellement issues de la gauche. Et que la majorité présidentielle, dans ses composantes, La République En Marche, Territoire de Projet, le MoDem, doivent porter ce socle de valeurs. Alors bien sûr, moi je suis plus engagée sur les sujets de lutte contre les inégalités, sur les sujets d'adaptation, de réforme, de lutte contre le changement climatique. Donc forcément, je me retrouve dans cette partie-là de la majorité territoire de
progrès. Est-ce que cette partie-là, justement, on parlait de Gérald Darmanin pour la partie droite, ne manque pas d'incarnation ? Est-ce que Territoire de Progrès, votre groupe de gauche, ne souffre pas du fait que ce soit Jean-Yves Le Drian, son président, alors qu'on voit bien que ça n'est pas sa priorité et que le ministre des Affaires étrangères, on bouge beaucoup ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer de ce point de vue-là ?
D'abord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est je crois à la politique par la preuve aussi, donc je crois que c'est en faisant, en transformant, en apportant des réponses que l'incarnation aura lieu. Après, Territoire de Progrès se structure, c'est un mouvement qui est jeune, qui a été créé il y a à peu près un an. Nous avons un congrès pour adopter les statuts la semaine prochaine, nous aurons un congrès général en octobre. Oui, puisque de toute façon, les statuts changent pour évoluer avec la structure. Moi, je suis candidate à m'investir dans ce mouvement. Je suis candidate pour y être présente, pour en porter les valeurs et la voix. J'y suis déjà. Je me suis présentée sous cette étiquette territoire de progrès aux élections régionales en Ile-de-France.
Vous pouvez être bien présidente.
Donc, je serai très investie dans ce mouvement. Mais encore une fois, c'est un sujet du collectif. Et ce qui est peut-être le plus intéressant à un territoire de progrès, c'est notre capacité à porter des idées. Nous avons besoin de porter des idées nouvelles.
À propos d'idées, une idée que porte la gauche de la Macronie très fortement, et les jeunes notamment, c'est la légalisation du cannabis. Or, le président vient de fermer ce dossier, y compris pour la présidentielle. Même chose pour la fin de vie. Est-ce que là, il n'y a pas tous vos thèmes qui sont en train d'être fermés, uns après les autres ?
Moi, je pensais plutôt citer la modernisation de la vie politique et notamment le mode de scrutin, puisque Territoire de Progrès avait porté il y a quelques temps une proposition de loi pour aller vers le vote, vers le vote électronique, vers le vote par correspondance. Mais sur les sujets sociétaux, oui, il faut une place au débat. Et je pense que de toute façon, le débat reviendra dans la présidentielle.
Emmanuel Macron a fermé la porte, là.
Sur le cannabis, en tout cas.
Il a pris une position, mais après, il nous appartient, dans un certain nombre de cas, de mettre des sujets sociétaux sur la table. Alors, encore une fois, la présidentielle, ça va être une campagne, on va avoir des idées réémerger.
Lesquelles sont très importantes pour vous, là ? Donnez-nous 2-3 idées qu'il faut absolument voir portées par Emmanuel Macron dans la présidentielle.
Moi, je crois d'abord 2 choses. La première, ce sont les jeunes. C'est ce qu'on disait, garantie jeune universelle, autre solution. Comment est-ce qu'on accompagne mieux les jeunes dans leur entrée dans la vie professionnelle ? Comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes ne considèrent pas être une génération sacrifiée ? Donc pour moi, la première cause, probablement, ce sont les jeunes. Ensuite, c'est la suite de la modernisation de la vie publique, et du mode d'élection et du mode de scrutin. Moi, j'ai participé au grand débat que j'ai co-animé. J'ai suivi de très près la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat, elle a produit une loi. Alors, on peut considérer que le dispositif n'était pas parfait, qu'on n'est peut-être pas allé assez loin par rapport à ce que voulaient les citoyens, mais continuer à travailler la place de la démocratie directe par rapport à la démocratie classique. Pour revitaliser la démocratie classique, il faut continuer. Donc sur ces deux sujets, les jeunes et le renouveau démocratique, nous porterons des propositions.
On verra dans quelle mesure effectivement ils sont inscrits. À propos d'idées, Emmanuel Macron, dans une longue interview dans le magazine Elle, s'inquiète d'une société qui se racialise. Il se dit, lui, du côté progressiste parce qu'il est féministe. Mais il se dit aussi contre les croc-tops, hein, cette tenue donc, qui affecte beaucoup donc, d'adolescentes. Vous êtes sur cette ligne ?
Moi, je regrette un peu que dans cette interview qui portait sur le bilan de tout ce qu'on a fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes et cette question importante hein, de l'universalisme, on ait retenu que cette phrase qui d'ailleurs ne se prononce pas stricto sensu pour le crop top. Moi, je pense que c'est important de permettre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de s'habiller comme elles le souhaitent et aux hommes d'ailleurs d'arrêter de ne regarder que la tenue des femmes et jamais
la
tenue des hommes.
Parce que voilà, une fois de plus, c'est un homme qui regarde les vêtements des femmes, c'est progressiste.
Après, oui, quand on arrive à l'école, il faut arriver de façon décente, mais à savoir qu'est-ce qu'un vêtement décent, moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. En fait, ça ramène au point fondamental, est-ce que la politique, c'est les petites phrases ? Moi, je ne suis pas bonne en petites phrases, je ne suis pas douée en petites phrases. Donc voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans.
C'est
la
vrai,
politique, ce n'est pas ça.
Très intéressant. Mais qui les prononce, les petites phrases, en l'occurrence les,
mais qui les extrait, cette interview, elle fait 6 pages. Et la question posée sur l'universalisme, c'est une question importante. Comment est-ce qu'on se qualifie dans la société ? Est-ce qu'on considère que quand on cumule des minorités, on ne peut être représenté que par ce cumul de minorités ?
Vous trouvez que la société se racialise ?
Je suis une femme. Je suis juive, mes grands-parents étaient roumains. Est-ce que c'est ça la manière dont je me définis ? Un peu, bien sûr, parce que des fois, je suis confrontée à cette définition. Est-ce que je me réduis à ça ? Non. Moi, je suis là pour porter un collectif. Donc la question de l'identité versus l'universalisme, elle est très importante, sans nier les discriminations, parce qu'elles existent. Et si moi, j'en suis peu victime, effectivement, des femmes vivant dans des quartiers difficiles, de couleur, peuvent être soumises à des discriminations fortes. Mais ne mélangeons pas les discriminations raciales et les discriminations sociales. Moi, mon combat, c'est un combat contre les inégalités sociales. Aussi.
Sa phrase aussi, c'est il s'inquiète d'une société qui se racialise. Vous reprenez cette phrase aussi ?
L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est d'enfermer chacun dans ses particularités, de telle sorte qu'in fine, on ne sait plus en sortir. Il faut lutter contre les discriminations. Et les discriminations, elles sont fondées parfois sur le sexe, sur la race, etc.
À la racialisation.
Mais s'enfermer là-dedans, en disant on ne peut plus exprimer la souffrance d'un peuple si on n'en fait pas partie.
La gauche fait trop ça.
C'est un risque très important. Et c'est pour ça que je vous disais que la gauche socialiste, elle ne sait plus où elle habite sur ces sujets. Elle est fracturée sur ces sujets. Confère la campagne d'Audrey Pulvar.
Merci.
Elle ne sait plus où elle est. Nous, nous sommes clairs. Nous sommes universalistes. Nous sommes là pour créer, soutenir, maintenir une communauté nationale, pour unir les Français. Le plus inquiétant dans cette période, ce sont les Français qui disent qu'ils n'appartiennent plus à aucune communauté, ni la leur particulière, ni la communauté nationale.
Merci.
Il faut recréer cette communauté.
Merci. Merci Emmanuel Bargon, c'était votre grand rendez-vous. À dimanche. Europe 1.